Bonjour, c'est Laurent Binet, vous écoutez Pop Hop Hop. Pop Hop Hop, c'est parti. Pop-popienne, pop-popien et tous les autres aussi, bonjour. Je sais que nous sommes au mois de septembre, mais moi, si personne ne m'en empêche, je serais bien tenté de le rebaptiser le mois de Zem. Zem, roche dit de son prénom, est sur tous les fronts, sauf le national, en ce mois de septembre, aussi sûr que Pookie d'Aya Nakamura a été sur toutes les lèvres, sauf les miennes, au mois d'août. Oui, on l'a d'abord applaudi dans Roubaix, une lumière d'Arnaud Desplechin, et un petit mois plus tard, on va lui faire un triomphe à l'occasion de la diffusion des Sauvages de Rebecca Zlotowski sur Canal+. Lundi prochain. Alors certes, on n'a pas attendu le mois de septembre 2019 pour découvrir que Rochdy avait du talent, mais le fait est que c'est la première fois dans l'histoire de la fiction française qu'un acteur issu de des minorités, comme on dit avec ce sens de l'euphémisme qui fait la réputation de notre langue française, se retrouve à jouer un président de la République. Et ce président impérialement interprété, si je puis dire, par notre invité, c'est Rochdy et personne d'autre. Oui, je vous le répète, ce mois de septembre, c'est définitivement le mois de Zem. France Inter.
Pop, pop, pop. Antoine de Paule.
Bonjour Rochdy.
Bonjour Antoine.
Le mois de Zem, ça vous convient?
Ouais, très bien. Enfin, le mois de septembre, c'est un mois en plus, c'est le mois de mon anniversaire.
Votre anniversaire, le 28, oui.
Donc voilà.
C'est une belle balance.
Le 28,
en fait.
Le 28.
Oui, le 28.
Donc, ça tombe très bien. Moi.
Soit 5 jours après Bruce Springsteen.
Avec Bruce. Oui, c'est ça, 23.
D'accord. On en reparlera. Oui. À mes côtés, celle qui a retourné tous les dance floors sur Pookie, Charline Nakamura.
J'ai envie de dire fake news. Bonjour,
fake
Antoine.
News, bonjour, Roche Dizem. Je ne sais pas si vous le savez, mais ici, il existe une question qui fait traîner un suspense encore plus mystérieux que dans les feux de l'amour.
Mais je n'ai pas fait que le voir. J'ai aussi couché avec lui.
Et cette question, c'est... Pour vous, Rochdy, c'est quoi la pop culture? Alors, pour être totalement honnête, j'ai eu des réponses rochdisées, sauvagines et même zoom-zoomesques. Et parmi mes préférées, il y a celle d'un homme que vous aimez, un certain Bruce Springsteen.
Having your finger on the times, you know?
Je crois que le propos, l'essence de la culture pop, c'est d'être à l'écoute de son temps, de renvoyer au public l'image de son époque, de se poser comme un miroir qui en même temps reçoit et réfléchit dans un dialogue permanent, qui réfléchit sur ce que nous sommes, le sens de la vie, d'où nous venons, où nous allons. Tout cela est au centre, à mon sens, de tout le discours philosophique. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que je vois les choses.
Bien, ça c'était Bruce, et vous, Rochdy, vous vous sentez de passer après Bruce?
Oui, c'est très, très difficile. On disait tout à l'heure hors antenne que c'était un magnifique conteur et qui raconte très bien ce qu'il ressent. Donc je ne vais pas rivaliser. Je vais essayer de compléter ce que moi j'ajouterais à la pop culture. C'est selon moi aussi une façon de s'exprimer... sans les dictats, sans les tabous, parfois sans la pudeur, voilà, de trouver un moyen d'expression qui exprime un peu tout ça. Et donc, chacun a sa propre pop culture.
C'est-à-dire quelque chose d'extrêmement contemporain, en évolution permanente.
Oui, enfin, je dirais même d'intemporel, si vous permettez.
Oui, très bien.
Voilà.
Ok. Ça vous convient, Charlie?
Je trouve ça bien plus brillant que celle de Springsteen.
Bon, alors
gentil.
Vous allez vous calmer tout de suite.
C'est faux, okay. Mais c'est gentil.
Alors, la pop, la culture et la pop culture, on va en parler dans la suite de Pop Pop Pop, juste après 'Cause I Love You, c'est un morceau de Lizzo.
What the fuck are fucking feelings, yo? Once upon a time I was a hoe. I don't even want a hoe no more. Got you something from the liquor store. Little bit of Lizzo and some more. Trying to open up a little more. Sorry if my heart a little slow. I love you.
my hair pressed again. I would do it for you all, my friend. Ready, baby? Will you be my man? Wanna put you on a plane, fly you out to wherever I am. Kept you on the low, I was ashamed. Now I'm crazy about to attach your name. I thought that
Lizzo, notre chouchou ici, c'était Cause I Love You. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes aujourd'hui avec Bob. Bob, de la série Cordier, juge et flic. Mais de qui s'agit-il? Réponse avec son pop portrait. Alors oui, un pop portrait, Bob, bah, c'est votre portrait, mais... Et c'est signé Charline.
Il faut que je vous interrompe un moment.
Bon, c'est là, maintenant.
Tout à fait. Aujourd'hui, un acteur qui n'aime pas se montrer hors écran, j'entends. Alors, on est d'autant plus heureux. Ouais, bon, ok. Je suis d'autant plus heureuse qu'il soit là aujourd'hui. Non pas qu'Antoine ne se réjouisse pas, hein. Ces deux-là ont une histoire commune que la pudeur. Oui, bon, ok. La jalousie m'empêche de dévoiler ici. Mais comme je suis pro, je le dis, monsieur N et Blanche. Deux salles, deux ambiances, des costumes. Cet homme-là peut tous les endosser. La moindre des choses pour un comédien, me direz-vous. Mais on en a vu deux moins bien vêtus. Grand maréchal ou espion, mais aussi prêtre chocolat addict dans Chouchou, indique dans 36, flic à de multiples reprises, go fast le petit lieutenant, soldat algérien oublié dans Indigène, engagé en Indochine hors la loi, notre invité a même porté la robe d'avocat, je précise, dans Commis d'office, et même l'uniforme de pompier dans Les Hommes du Feu. Quand il n'est pas habilement déguisé, c'est derrière la caméra qu'on peut le retrouver, de mauvaise foi à persona non grata en passant par chocolat. Alors aujourd'hui, un invité qui n'aime pas se montrer en dehors de ses rôles, mais qui en endosse suffisamment avec brio pour qu'on soit très satisfait.
Merci Charline. Et donc Bob dans Les Cordiers.
C'était sympa jusqu'ici, mais on y revient. Du
bon, ça vous semble à peu près complet? Oui.
Oui.
Bah. Oh bah, il en manque quelques-uns quand
il
même.
Il en manque quelques-uns, mais voilà, c'est.
Bah, il en manque quelques-uns. Vision oui, générale. 90 films et téléfilms au compteur.
Non, mais je suis content que vous ayez cité Monsieur N, parce que c'est une des premières fois qu'il m'a été proposé de jouer un rôle. Vous savez, un maréchal d'empire, et donc je profite de la présence d'Antoine pour le remercier encore. J'ai pas mal de remerciements. J'aurai le temps de
remercier 50
fois. Je permets,
je
vais profiter de cette émission. J'ai pas mal de raisons de remercier Antoine. Donc j'espère que j'aurai le temps de le faire.
Prenez-en.
Vous êtes gêné? Vous êtes
gêné? Non, pas du tout.
Si vous êtes gêné, je le sais, je le vois.
J'ai fait tout de suite. Je vous le dis, quoi. Voilà, ouais.
Prenez-en
très court.
De la graine.
Je remercie d'abord parce que mes premiers cachets de comédien, il s'en souvient pas lui, mais c'était PAKG.
Ouais.
Pierre-Antoine Carlégi.
Bien sûr que je m'en souviens.
Les années nulle part ailleurs. Ouais, ouais. Ça, c'est mes premiers cachets de comédien. Ma première rencontre avec Springsteen, mon dieu, mon idole, grâce à Antoine qui me l'a fait rencontrer de très très près. On n'aura pas le temps de raconter les détails.
Moi, jamais, mais...
Et effectivement, le maréchal d'Empire, qui m'a permis d'obtenir après d'autres rôles, parce que le fait de prendre justement un acteur comme moi, issu de l'immigration, dans un rôle de maréchal, ça a ouvert des portes, ça a ouvert des esprits, et ça m'a permis de faire un grand pas. Donc voilà, c'est fait.
Bon, eh ben écoutez, me voilà rouge de confusion.
Mais vous devriez pas tout être...
Je pense avec le fond, fier, le fond Antoine. France Inter, c'est la couleur de la maison. Alors, Rochdy, dans la séquence qui va suivre, nous allons parler de Bruce Springsteen. Alors, sans plus attendre, passons à votre pop liste. Rochdy, nous vous avons demandé de choisir un livre, un film, une musique et une série culte. Pour le livre, vous avez choisi 1984 de George Orwell, publié en 1949. 1984, la référence absolue en matière d'anticipation de dystopie. 1984, à la fois un roman extraordinaire et un texte terrifiant, tant d'une certaine manière, il semble s'être réalisé, je dirais, la prophétie orwellienne. Big Brother est là, et bien là, il nous regarde, et moi, Charline, je vous écoute.
Je suis pas votre frère. Londres, 1984, le monde est divisé en trois superpuissances. L'Océanie, l'Eurasie, l'Estasia, perpétuellement en guerre les unes contre les autres, et chacune d'entre elles est dirigée par un régime totalitaire. Winston Smith travaille au ministère de la Vérité. Sa mission, raconter l'histoire pour qu'elle soit conforme à la version du parti.
Merci Charline. Rochdy, auriez-vous l'amabilité de nous en lire quelques lignes, s'il vous plaît?
Oui, absolument. Donc voici, dans notre société, ceux qui sont le mieux éclairés sur l'événement sont aussi ceux qui sont le plus éloignés de voir le monde tel qu'il est. En général, mieux on comprend, plus on se leurre. Plus on est intelligent, moins on raisonne sainement. On en trouvera une illustration sans équivoque sur le fait que l'hystérie guerrière augmente avec le niveau social. Ceux qui ont l'attitude la plus sensée vis-à-vis de la guerre sont les peuples sujets des territoires disputés. Ils la tiennent pour une calamité continuelle qui roule sur leur corps, dans son flot, à la manière d'une lame de fond.
1984 de George Orwell, lu par Rochdy Zem, qui en a fait son choix pour sa pop list. Pensez qu'on nous regarde en ce moment, qu'on nous écoute, je l'espère, mais...
Oui.
Sur franceinter.fr.
C'est ce qu'on m'a dit, en tout cas, avant de commencer l'émission. En précisant bien que ce ne serait pas diffusé, etc. Mais, en tout cas, c'est dans la boîte.
Alors, pourquoi est-ce qu'il vous a tellement plu, ce livre?
Justement, vous le disiez tout à l'heure, j'ai cherché, et ça nous ramène à la série, un roman qui soit justement une dystopie. Mm-hmm. Et le fait qu'il soit écrit en 49 ou en 50, je ne sais plus exactement, et d'avoir un... Je trouve que c'est ce qui se fait de mieux en termes d'anticipation par rapport à la société dans laquelle on vit. Il l'a envisagé, pensé et écrit. Et voilà, je l'ai lu à une époque où je suis toujours d'ailleurs très fan de littérature américaine. Ouais. Truman Capote, Salinger, ouais, Norman Mailer et autres. Et celui-ci m'avait beaucoup marqué, donc quand vous m'avez demandé... de choisir un livre culte, celui-ci en fait partie, et c'est le premier qui m'est venu en mémoire.
Qui vous est venu à l'esprit, bien. Alors, pour le film, vous avez choisi Voyage au bout de l'enfer, de Michael Cimino, sorti en 1978. Robert De Niro, John Cazales, Meryl Streep, Christopher Walken, réunis dans un film que l'on se faisait littéralement en boucle, à l'époque de sa sortie, tant il nous hypnotisait littéralement. Charline, quand je dis vous, je ne vous compte pas, bien sûr, puisque c'était donc en 78.
Je vous remercie, Antoine. Et le film se déroule 10 ans plus tôt. Mike, Steven, Nick, Stan et Axel sont très soudés et coulent des jours plus ou moins paisibles à Clairton, Pennsylvanie. Mais Mike, Steven et Nick sont mobilisés pour partir au combat au Vietnam.
One shot is what it's all about. Deer has to be taken with one shot. I don't think about one shot anymore. You want to play games?
All right, I'll play your games.
Avec la vraie voix de Robert De Niro, que vous n'avez découvert en fait qu'à l'âge de 25 ans, c'est
absolument,
ça?
Absolument, oui, à l'époque on regardait surtout des versions françaises, parce que c'était des cinémas de quartier. Ouais. Et encore une fois, j'ai choisi un film qui est sans doute le film qui m'a le plus donné envie de devenir acteur. J'ai trouvé que voilà, tous les acteurs, et notamment le regretté John Cazales, qui est un acteur qui m'a beaucoup marqué, voilà, flirter avec la perfection, le film, la façon dont il le raconte, cette douleur, cette amitié. Et puis, je crois que c'est la seule fois où dans un film, quand les acteurs chantent, c'est un moment magique. Mmh. C'est quelque chose qui a été refait de nombreuses fois dans le cinéma, ça marche pas très souvent. Je me souviens plus du tube I love you baby na 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 na. Je sais plus comment il s'appelle. Et voilà.
Can't get my eyes out of you.
Can't get my eyes out of you.
Alors je me souviens plus
de you. Can't get my eyes. Bon, elle va le retrouver.
Et c'est un film que j'ai dû voir au moment de sa sortie. Vous savez, à l'époque, on pouvait rester dans la salle et donc j'ai dû le voir 17 fois en 2 jours.
C'est exactement ce que je disais. C'est-à-dire, on ne pouvait pas se lasser de ce film.
Et pourtant, il durait plus de 3 heures.
Francky Valli.
Francky Valli, merci.
Can't take my eyes.
Quel sens du timing. Bien. Passons à la série. Pour la série, Rojdi, vous avez choisi The Wire. C'est une série créée par David Simon, diffusée entre 2002 et 2008 sur HBO. Charline, une série qui revient souvent dans Pop, ce qui permet de mesurer l'impact qu'elle a eu sur beaucoup de nos invités. Comment expliquez-vous-t-il cela?
Comme d'habitude, et en 2 mots, Idris Elba. Non, ok, ça marche pas. Sûrement aussi le génie de David Simon et ses personnels infiltrés qui ont su raconter Baltimore, sa police, ses trafiquants, ses enseignants, ses habitants au plus près.
If you walk through the garden,
alors, du Wire, on revient aux histoires d'écoute. Hein, point de croisement avec 1984. Non, mais c'est une série qui est vraiment est citée très régulièrement dans Pop. Pourquoi est-ce qu'elle vous a, elle, marqué à ce point-là?
Pourquoi c'est? Je regarde très peu de séries, j'en vois une par an, peut-être deux.
Je vous conseille Les Sauvages, hein, qui...
Oui, elle fait partie de celles qu'il faut voir, absolument. Non, mais The Wire, écriture très exigeante, très intelligente, et puis ça parle de l'éducation, de la politique, de la presse, des bas-fonds de Baltimore, donc des classes sociales les plus défavorisées. Et la façon dont est décrite cette Amérique-là à travers cette série, voilà, j'ai rarement vu quelque chose aussi brillant en termes de série. J'avais hésité avec Les Sopranos, qui sont pour moi les deux plus grandes séries récentes actuelles.
C'est les deux plus puissantes en termes de narration. Enfin, c'est celles qui d'une certaine manière ont été les matrices de tout ce qui
est
arrivé après.
Oui, mais personne n'a encore réussi à rivaliser à ce jour avec cette série en termes de thème sociétal.
Charline, vous êtes d'accord ou pas? Parce que c'est notre grande spécialité série.
Moi, je suis très Lost, mais du coup, on est très très loin en termes de
registre. Très loin, oui. On est très perdu. Oui, bien. Rojdi, il est 16h21:35. À ce moment précis sur France Inter, c'est le moment du point springstinien, car votre chanson culte, mais c'est celle-ci. Thunder Road de Springsteen, évidemment sorti en 75 sur l'album Born to Run. Bon, alors là, pause. De Bruce, nous redirons certainement quelques mots un peu plus tard dans l'émission, si Charline nous laisse faire, bien sûr.
J'ai pris un jokari, moi.
Mais là, soyons clairs, dans le coffre-trésor que représente le catalogue springsteenien, ce diamant-là brille d'un feu particulier. Je suis entièrement d'accord avec vous sur le choix, mais... Vous, pourquoi avez-vous choisi Thunder Road?
Il fallait faire un choix, mais j'en avais 75 sous la main, encore ne serait-ce que la dernière, Western Stars, que je pourrais qualifier de culte. C'est sûr qu'elle va voyager dans le temps comme les précédentes. Mais quand on dit culte, on est forcément nostalgique. Et Thunder Road, ça fait 40 ans que je l'écoute. Et elle me fait, on a écouté un extrait, elle me provoque encore des frissons.
Et dans toutes les versions possibles, parce qu'il y a
versions acoustiques, absolument. Ouais. Parce que c'est la chance qu'on a aussi avec Springsteen, c'est qu'il y a toujours plusieurs versions des chansons qu'il interprète. Mais voilà, c'est pour les frissons qu'elle me procure, pour ce que ça raconte. Moi, quand j'ai découvert Springsteen, effectivement, j'étais donc un enfant de banlieue parisienne, fils d'immigré, et ce type qui est un working class hero, c'est ce qu'il raconte, du New Jersey. L'impression qu'on vivait, les mêmes frustrations, les mêmes rêves, les mêmes envies, et découvrir comme ça quelqu'un qui raconte, qui met des mots sur ce que vous ressentez, c'est assez exceptionnel. Et surtout, voilà, ça s'inscrit dans le temps. Ça fait 40 ans que ça dure. Mmh. Et en termes d'intensité, ça n'a jamais baissé.
Et qu'il n'y a pas de fatalité et qu'on peut échapper à ce qui semble être un destin.
Voilà, comme il raconte souvent le Promised Land, ouais. Ça me parle. Même son rapport à la famille, son rapport au travail, voilà, toutes ces choses-là qu'il a toujours très bien chanté et interprété. Voilà, c'est de la poésie pure, ouais. Mis en musique.
Bah oui. Charline, on fait un peu long pour vous, là.
Non, pas du tout, je vous écoute. Vous êtes toujours bienvenue là-dedans. Sur Springsteen Radio.
Alors, je résume. 1984, Voyage au bout de l'enfer, The Wire et Bruce Springsteen. Je mets tout ça dans mon mixeur de pop culture et ça nous donne ça. If you walk through the garden,
ooh, don't take my hand. One shot is what it's all about. Ooh, you
better watch your back. En général, mieux on comprend, plus on se leurre. Plus on est intelligent, moins on raisonne sainement. Way down in the hole. I don't think about one shot anymore.
C'est un tube de Rushdie qu'on
s'en fait. Je suis en train de réaliser que mes choix étaient très américains quand même. Hein.
Ah oui, on va se le cacher. Bon, George Orwell est un peu anglais quand même. Bon,
c'est pas très grave, de toute façon.
Non, c'est pas très grave.
Très anglo-saxon. Bon,
enfin, ça va, vous y retrouvez, vous êtes content?
Oui, très bien. Bon, oui, très bien.
Alors, Roche disait, entre Springsteenien, on se comprend, et entre Springsteenien, on n'écoute pas du Dev, mais du Springsteen. Et je vous propose la version Thunder Road que vous aimez tant, mais live au Roxy, et ça, c'était en 75.
Ladies and gentlemen, Bruce Springsteen and the E Street Band.
Got this guitar and I learned how to make it talk. And my car's out back if you're ready to take that long walk from your front porch to my front seat. The door's open but the ride it ain't free. I know you're lonely and there's words that I ain't spoken, but tonight we'll be free. All the promises will be broken. There were ghosts in the eyes of all the boys you sent away. They haunt this dusty beach road and the skeleton frames of burned out Chevrolets. They scream your name at night in the street. Your graduation gown lies in rags at their feet. And in the lonely cool before dawn, from your room you hear their engines roar on. But when you get to the porch, they're gone. Oh, the wind, so Mary, climb in. It's a town full of losers and I'm pulling at a
Inter, pop, Antoine de Caunes.
Et Charlino, c'était la version acoustique de Thunder Road live au Roxy en 75 de Bruce Springsteen. Et il y a eu quelques frissons dans ce studio pendant les 5 minutes qui viennent de s'écouler. Même Charline Roux était en larmes.
Bah, vous m'avez forcé à mettre un casque en même
absolument
temps.
Absolument. Et vous le gardez. Tiens, jusqu'à la fin. Roche Dizem, aujourd'hui, on va parler des Sauvages, la série créée par Rebecca Zlotowski et co-signée par Sabri Louata. Une série qui sera diffusée lundi prochain sur Canal+. Les Sauvages, c'est l'histoire en 7 jours chrono qui ne sont pas pour rien dans la tension permanente qui parcourt les 6 épisodes de Fouad, jeune acteur star d'une série télévisée, fiancé de Jasmine, la fille du candidat favori à l'élection présidentielle, Ider Chaouch, joué par vous, Rojdi, mais, le jour de l'élection, Chaouch est la cible d'un tireur qui appartient à la famille de Fouad.
Nous sommes capables du meilleur et nous sommes capables du pire. Ni ange ni bête, nous sommes les deux à tour de rôle. Les plus civilisés des hommes, les plus parfaits sauvages.
Dans cette série, Rojdi, vous êtes donc Ider, ce candidat favori à l'élection présidentielle, élu par ailleurs l'homme le plus sexy de l'année. Vous y pensiez en vous rasant ou en vous épilant pour être le plus sexy de l'année?
Vraiment pas, non. Vraiment pas.
Comment est-ce que, quand on est comédien, on travaille sa stature présidentielle? On vous trouve des petits airs d'Obama dans la série, mais de qui est-ce que vous êtes inspiré?
D'Obama. Ouais. C'est bizarre, c'est encore une fois, faut aller chercher aux États-Unis une personne. Oui, parce que si vous voulez, les derniers présidents en date, j'avais du mal à trouver des analogies avec François Hollande, avec Nicolas Sarkozy. Mais en plus, si vous voulez, l'auteur Sabri Louata vit aux États-Unis, donc on sent dans son écriture qu'il est d'une grande inspiration américaine. La façon dont il a structuré son récit ressemble beaucoup à ce qui se fait aux États-Unis, en tout cas dans l'intention et dans les idées. Et forcément, oui, je me suis plutôt inspiré d'Obama, mais même si j'ai pas non plus cherché à le copier. Mais
c'est plus facile de regarder des heures de discours d'Obama de qui que ce soit. Oui, peut-être aussi.
Après Obama, je parle pas évidemment de politique, mais il avait la classe quand même. Donc voilà, autant s'inspirer.
Alors c'est une série qui est adaptée des romans de Sabri Louata. Vous êtes passé par la case roman pour préparer le rôle ou vous avez fait
l'économie? Non, je suis passé par la case roman non pas pour préparer le rôle, mais parce que quand j'ai été contacté par Rebecca. Les épisodes n'étaient pas encore écrits. Donc je me suis d'abord attelé à l'écriture des romans de Sabri, qui était sans concession, même si la série l'est déjà tout à fait. Mais il y avait quelque chose de plus... Voilà, c'est encore une fois, c'est dans cette écriture américaine où il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de rédemption même pour les personnages. La réécriture, j'ai trouvé en tout cas la réécriture de Rebecca et de Sabri, puisque l'auteur a participé au scénario. Il y a quelque chose comme ça où on avait le sentiment qu'ils cherchaient quand même à sauver leur personnage. Et c'est ce qui m'a séduit, parce que j'aime bien même les personnages les plus antipathiques et les plus dangereux possibles, soit quand même quelque part qu'on trouve quand même une forme d'empathie.
Parce que c'est très surprenant, les romans de Sabri Luata sont parus entre 2012 et 2014. Et là, la série telle qu'elle est tournée aujourd'hui, c'est une vraie radioscopie de 2019. Est-ce qu'il y avait déjà quelque chose de visionnaire dans les romans, ou est-ce qu'effectivement il y a eu un gros travail de réécriture? Parce que post-2015, c'est
non,
plus les mêmes personnages.
En fait,
c'est plus...
Si vous voulez, très peu de choses ont changé. En fait, dans la vision de la société qu'elle a par rapport à la communauté nord-africaine et sa place dans la société française, ça n'a pas beaucoup évolué, en tout cas d'un point de vue sociétal, j'entends. Donc cette écriture, elle restait encore très actuelle.
Et alors la série est à la fois une fiction politique, une saga familiale, voire deux familiales, Chaouche les présidentielles contre Nérouche les modestes de Saint-Étienne, et fait même désembarder du côté de l'espionnage. Est-ce que de par son ambition et sa forme, Les Sauvages ne pouvaient être qu'adaptés en format série?
Je ne sais pas, c'est une bonne question. Je n'y ai pas réfléchi. Mais bon, voilà, c'est vrai que la série permet ça, d'étirer dans le temps. Et puisque, comme vous le disiez très bien, c'est une saga familiale, ça permet de donner le temps de découvrir plusieurs personnages et surtout des personnages annexes qui auront leur importance dans le récit. Et c'est vrai que dans le cinéma, on est obligé d'aller à l'essentiel. Je dirais même parfois d'éliminer certains personnages parce que il y a un temps qui est un peu imposé. Là, voilà, c'est la famille, elle existe complètement. Il y a les frères, il y a les sœurs, mais il y a aussi le cousin, et c'est vraiment des personnages à part entière qui prennent part à l'histoire.
Justement, pour en rester à ces histoires de famille, il est intéressant de noter que Les Sauvages arrivent au même moment qu'une série anglaise qui s'appelle Years and Years, elle aussi diffusée sur Canal, et qui radiographie l'état du pays à travers une histoire de famille. Est-ce que la famille, c'est un endroit privilégié pour parler du monde?
Ah bah depuis toujours, depuis Sophocle, Shakespeare, voilà, la littérature est toujours passée par la famille. Je ne citerai que Dallas, par exemple.
Shakespeare, Dallas.
Oui, mais parce que Dallas est complètement inspiré de la mythologie grecque. Enfin voilà, les trahisons, les histoires de cœur, etc. On sent que, je vous dis ça parce qu'on l'avait étudié en classe et on avait un professeur très intéressant qui nous avait fait un parallèle entre Dallas, qui nous avait paru farfelu, mais finalement assez pertinent. Mais oui, la famille est le meilleur moyen de raconter à travers cet aspect, le microcosme que représente une famille. Voilà, c'est le reflet d'une société avec ses trahisons, ses amitiés, ses... Il y a tellement d'éléments qu'on peut, parce que c'est encore une fois, c'est voilà, qu'on lit très bien, on choisit pas sa famille, donc parfois c'est tendu et ça prend un aspect beaucoup plus dramatique. Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Sabri Luata dit à propos de ses romans, la fiction, c'est l'art de faire triompher la vie, ce qui aurait presque tendance à le ranger du côté des optimistes, quoique. Vous, Rojdi, vous vous situez de quel côté?
Répétez-moi.
Optimiste quant à la situation ou pas du tout?
Je crois que je me situe entre les deux. Non, parce que je suis pas d'une nature pessimiste. Je fais pas partie de ceux qui disaient c'était mieux avant, etc. La seule chose qui était mieux avant, c'est que j'étais plus jeune. Mais j'ai confiance en la jeunesse. J'ai des enfants qui ont 18 et 20 ans, et quand je vois ce qui les préoccupe, les idées, même leur... La façon dont ils se placent politiquement, je trouve ça assez rassurant. Alors, ils sont pas représentatifs, évidemment, mais le fait est que voilà, ça me rassure. Donc, je suis pas très pessimiste non plus, mais faut pas non plus être totalement naïf. Il y a quand même, on traverse une période délicate, mais je crois quand même qu'on nous bassine quand même assez souvent pour dire que la période dans laquelle on vit est la plus difficile, est la plus dangereuse, est la plus belliqueuse. Ouais. Je crois pas. L'histoire raconte complètement le contraire. Mais ça demande quand même de s'impliquer. Rien n'est acquis. Donc c'est un travail à plein temps en réalité.
Tourner une série française avec des Arabes dans presque tous les rôles, c'est à peine croyable, dit l'auteur des 4 tomes de la saga. Pourquoi est-ce que c'est à peine croyable?
Ah, Moi, je crois, c'est, enfin, je suis peut-être plus aguerri, mais ça m'a pas surpris, ça. Surtout de la part de Canal. Canal a toujours fait une place, et ce depuis longtemps, à la société multiculturelle qu'est la France. Donc ça ne m'a pas surpris, mais voilà, comme Sabri vit depuis longtemps aux États-Unis, peut-être que de l'extérieur, il y a quelque chose de peut-être voilà, de plus extraordinaire, mais c'est pas mon cas.
Rebecca Zlotowski croit à l'influence des séries en matière de représentation politique. Elle va jusqu'à dire qu'une série comme À la Maison Blanche a préparé l'élection d'Obama, comme House of Cards a préparé celle de Trump. Ce qui vaut pour les États-Unis pourrait s'appliquer avec le décalage habituel de quelques années à la société française.
Alors ça, je n'y crois pas.
Non, pas du tout.
Je n'y crois pas. Non, mais heureusement d'ailleurs. Enfin, que les gens soient pas influencés par une série, ça me paraît être un moindre mal. Mais non, je pense qu'on est beaucoup plus pragmatique en France à ce niveau-là, et les Français votent plutôt pour un programme ou une personnalité, mais certainement pas. Vous voyez, par exemple, d'avoir un président comme il y a eu dans les années 80, Ronald Reagan, je ne crois pas que ce soit possible en France, par exemple. Un acteur qui devienne le président de la République. C'est pas
Vous dites ça parce que vous n'envisagez pas
de... Non, j'envisage présenter.
Ça, c'est pas sûr. Mais pour reformuler la question un tout petit peu différemment, vous incarnez mieux, dans la série... Non, pas du tout, j'ai pas dit mieux, j'ai dit différemment. Je me permettrai pas. Vous incarnez dans la série le premier président français d'origine algérienne en ce 18 septembre 2019 en France. Est-ce que ce serait une utopie, une dystopie ou de la science-fiction?
À ce jour, c'est de la science-fiction. Mais c'est mon avis, hein, il n'engage que moi. Mais à ce jour, c'est de la science-fiction.
Les Sauvages, ça s'appelle, et ça passe à partir de lundi 23. Le lundi 23, c'est une date anniversaire, si mes souvenirs sont bons.
1949, naissance de Bruce Frederick Springsteen.
Incroyable, mais quel hasard.
J'ai l'impression d'être tombé dans un fan club, en fait, et j'ai pas la carte, en fait.
Rojdi, puisque vous savez faire tant de choses, est-ce que vous savez faire ça? Mais bien sûr qu'il sait le faire, c'est pour lancer les Pop News.
Lucie, Tom, M et Bob sont chez leur grand-père pour le week-end, mais rien ne se passe comme prévu. Il pleut, les enfants sont de mauvaise humeur et tout le monde s'ennuie. C'est alors que papy sort une pile de cartes postales et avec elle une boussole magique qui les enverra à chaque coin du monde pour vivre les aventures les plus extraordinaires. Et la boussole magique, c'est donc le titre de ce livre pour enfants. Et si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce que son auteur se nomme Paul McCartney, papy dévoué, hein, puisqu'il en dit « Je voulais écrire un livre pour les grands-parents du monde entier afin qu'ils aient une histoire à lire à leurs petits-enfants. C'est désormais possible et c'est publié chez Michel Lafon. »
Une salle plongée dans le noir, quatre humoristes et vous. C'est ce que vous propose le spectacle Concept Noir. On a déjà participé aux éditions précédentes des artistes tels que Baptiste Le Caplin, Thomas VDB, Mathieu Madénian, Kian Kojandi, Bérangère Krief, Blanche Gardin ou encore Fary et Shirley Soignant.
Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le vrai problème, Fary?
J'hésite entre deux tenues.
Mec, putain, on joue dans le noir!
La sixième édition de Noir se déroulera le 28 septembre à l'Européen à Paris, l'occasion d'y applaudir entre autres l'immense Monsieur Fraise, qui sera également à l'affiche de la Nuit de la Pop Culture demain, en direct et en public, depuis le Grand Contrôle à Paris et dans votre radio de 21h à 5h du matin.
Comment prolonger l'été quand il est quasi terminé? En écoutant Youssef qui nous propose un grand 8 à danser intitulé Roller Coaster. Roller Coaster de Yuxac, un titre à sensation forte qui tease comme il se doit un nouvel album qui arrivera en février.
France Inter. Popopop. Antoine Decaune.
Oui, c'est moi.
Monsieur Fraise.
Mais oui, bravo Charline Roche-Dizem. Vous restez avec nous dans la suite de Popopop. On va continuer à parler du boss. Mais avant ça, on écoute NTM, That's My People.
Je t'explique ce que je kiffe, c'est de fumer des spliffs et puis de construire des riffs qui soient compétitifs. Pouvoir faire de la musique tout
en gardant mon éthique. Faire du fric sans jamais tâcher l'image de ma clique. C'est fou mais c'est comme ça, je me nourris ça. J'ai besoin de ça, mon équilibre dépend de ça. Je suis sur le mic, mec, et puis j'aime ça. J'aime quand ça fait pas, quand ça vient d'en bas. Et puis quand c'est pas, pour finir léché. Trop sophistiqué, c'est péché. Je préfère m'approcher de la vérité sans tricher, sans jamais changer mon fusil d'épaule. Et puis garder mon rôle, tenir la tôle, rester en pole. Position peu confortable mais c'est pas grave. J'aime le challenge, porter le maillot, frapper du saut de ceux qui dérangent est un honneur pour moi, comme pour tous mes complices, mes compères, mes compasses. Fatigué de cette farce, on veut plus subir et continuer à jouer les sbires. Sache que ce à quoi j'aspire, c'est que les miens respirent. Kiff, c'est de chiller, rester tranquille au sein des miens, me laisser aller à déballer. Des conneries, parler juste pour parler. Pour faire le monde avec notre vision décalée. On est des fous, bloqués dans des cages d'escalier. Pris en otage, je parle nombre élevé de paliers. Et à la longue, mec, je t'assure, tout ça, ça pèse. 96, je vois toujours des braises allumées. Dans les yeux fatigués, des gosses du quartier. Passe, passe le mic, je développe mes idées contaminées. C'est vrai, je suis miné, déterminé à ne jamais vraiment lâcher la.
Qu'est-ce que tu peux faire?
Je suis pas là pour prendre des coups, bien même pour me taire. Si le FN brandit sa flamme, je suis là pour l'éteindre, c'est clair. Pas d'éclair, de gêner, juste un lyrics qui jaillit de mon esprit, dédicacé à mon poissy. Excuse au fait de prendre de l'âge. Si je sens pas les miens autour de moi, putain, c'est naufrage assuré. C'est vrai, je me sens rassuré. Qu'en présence de ceux que j'aime, je veux m'assurer que tout ce que je balance soit approuvé. Même si j'ai rien à prouver, je veux que tous mes potes puissent s'y retrouver. Je veux pouvoir les garder près, moi les regarde des 12 mois par an, comme l'ont fait mes parents pour moi. Parce qu'après, c'est trop tard. Faut pas comprendre qu'on les aimait une fois qu'ils sont ibas. Au pire, c'est que t'as envie de pleurer. Plutôt que tu sais pas, dans ce cas je peux rien pour toi. J'ai pas la clé du bonheur, j'ai même jamais été à la hauteur. Pour ce genre de truc, mais aujourd'hui j'ai peur. Car l'horloge a tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné, j'ai tourné,
j'ai tourné.
NTM, That's My People, avec un clip réalisé par, vous savez qui, Rojdi, le clip de cette chanson? Un certain Gilles Lelouch.
Vous faites en mime,
c'est Gilles Lelouch.
Ah, le clip.
Oui, le clip. Ouais. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de Pop Culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture de façon... Et nous sommes toujours en compagnie de Roche Dizem, venu nous parler de cette excellente série Les Sauvages, dont la diffusion commence lundi 23 sur Canal+.
Et au casting des Sauvages, on retrouve des actrices, acteurs chevronnés, Marina Foy, Samira Kazar et vous-même, Roche Diz, et deux jeunes acteurs prodigieux, Dali Ben Salah, votre gendre, bientôt à l'affiche de James Bond, Souheila Yacoub, votre fille, et Sofiane Zermani, a.k.a. Fianso. Est-ce qu'il y a eu passage de témoins et est-ce que, comme nous, ils vous ont absolument sidéré?
Oui, vraiment, surtout que je ne les connaissais absolument pas. Encore une fois, on en parlait hors antenne. Je trouve qu'il y a une jeune génération qui arrive mieux armée, avec une façon, contrairement à moi, à leur âge, assumée d'être là. Et donc, ils sont habités, ils sont incarnés. Et je crois, ils sont l'âme de la série, en tout cas. Tous ceux que vous venez de citer, c'est l'âme de la série. Et surtout pour eux qu'il faut la regarder.
Ils vous ont demandé des conseils, vous leur en avez donné ou pas du tout?
Non. Non, vous savez, quand on joue, on est un peu justement désarmé de la même manière. Donc on est là à céder, mais sans, c'est pas stipulé de cette façon-là. C'est les on se soutient avec un regard, avec une émotion, mais pas tellement dans une forme de, une formulation de mots. Et puis il se débrouille très bien tout seul.
Je crois que l'auditeur l'aura compris, on a adoré cette série, hein, Les Sauvages, qui est diffusée à partir de lundi prochain, avec Rochdy dans le rôle d'un président de la République fraîchement élu, à qui il va arriver plein de choses plus ou moins agréables. Et vraiment, regardez, c'est une série exemplaire. Bon, voilà, on en a parlé. Moi, je voudrais profiter des quelques minutes qui nous restent pour dire de moi avec vous, Rochdy, d'une passion que nous partageons, hein, pour le navibotélisme. Non, le navibotélisme. Autrement dit, l'art de mettre des bateaux en bouteille. Non, je plaisante, pour Bruce Springsteen, bien sûr, passion qui remonte aussi à la fin des années 70, à l'époque où vos petits camarades ne juraient que par AC/DC ou Bob Marley. Et oui. Vous étiez au milieu avec Bruce.
Oui, et personne ne comprenait. Enfin, d'abord parce qu'il ne connaissait pas, évidemment, mais il avait cette image de rock américain. Donc, quand je suis arrivé, moi, avec mes t-shirts et mes badges Springsteen, il comprenait pas, voilà, un fils d'immigré qui écoute du Springsteen, c'était donc j'ai essayé de le vendre, parfois avec succès, souvent avec des échecs. Mais
vous souvenez-vous de la première fois où vous l'avez écouté?
Oui, alors en fait, la première fois, j'ai cru écouter du Dylan, en fait. Mm-hmm. C'est en fait mes grands frères écoutaient Dylan, et puis il y avait cet album East Street Shuffle, où il a les cheveux longs, etc. Et j'écoute, et je dis, tiens, c'est le meilleur Dylan. Ouais. Et puis ça ne s'est pas arrêté. Après, il y a eu, puisque était sorti cette année-là, Born to Run. Ouais. Et ça a été un coup de cœur, enfin, je vous le dis, voilà, de tout de go, c'est une histoire d'amour. Mmh. Une histoire d'amour qui dure depuis 40 ans et qui m'accompagne encore aujourd'hui.
Alors, Bruce a sorti juste avant l'été cet album, hein, Western Stars, dont vous disiez un mot tout à l'heure. C'est un pas de côté stylistique, un de plus. Un album inspiré par la pop californienne des années 60, à la fois très lyrique et mélancolique. Est-ce que c'est une mélancolie à laquelle vous êtes vous-même sensible? Quel genre d'écho est-ce qu'elle éveille en vous?
Complètement, mais c'est vous savez, c'est étonnant, mais c'est bien d'en parler avec vous, je sais que vous comprenez, mais d'être
contrairement à Charles,
d'avoir le sentiment d'être toujours en symbiose et avec son travail.
Ouais.
Et cet album, il était arrivé à un moment de ma vie d'homme qui correspond complètement à ce que j'avais envie d'entendre et d'écouter. Effectivement, le lyrisme dont vous parlez, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Voilà, c'est très bizarre de se sentir connecté comme ça avec un artiste qu'on connaît quasiment pas, mais en tout cas avec son travail, c'est étrange et fascinant à la fois.
Le réalisateur que vous êtes, du haut de ces 5 films, quel conseil est-ce qu'il donnerait au réel débutant Springsteen?
Qui vient de co-signer
un film
Western
dont
Stars,
on n'a pas encore de date de sortie en France.
Toronto. Ouais. Franchement, j'ai aucun conseil.
Oh bah si, quand même.
Non, parce que tout ce qu'il fait jusqu'à aujourd'hui, et c'est aussi ce qui le rend aussi singulier, c'est qu'il le fait avec son âme et sa passion. C'est-à-dire, il n'a jamais rien fait pour des raisons commerciales ou de stratégie. Je vous rappelle qu'il a joué pendant un an seul sur scène à Broadway devant 500 ou 600 spectateurs. Mmh. On a eu la chance d'y assister. Ouais. Voilà, il n'y a pas une rockstar au monde qui serait capable de faire ça, et c'est une façon aussi de donner un sens à sa vie et à sa carrière que de le faire. Donc, si vous voulez, il est toujours là où on l'attend pas, et de façon surprenante, et pour l'avoir vu, donc on sent bien que c'est la passion qui l'anime. Donc vraiment, voilà, je parle de Springsteen, mais je pourrais dire ça de n'importe quel homme. À partir du moment où il est animé par cette flamme là, il y a pas de conseil à lui donner. Il est forcément guidé par son instinct, et puis cette fée qui veille sur lui depuis le début de sa carrière.
Et puis un dernier mot sur ce film qui est en salle en ce moment, Music of My Life, l'histoire de ce jeune Pakistanais de la banlieue de Londres dans les années 80. Qui, pareil, a une révélation en écoutant la musique de Springsteen, ça aurait pu être vous.
Ah, c'est étonnant, c'est étonnant. Non, c'est étonnant, parce qu'en plus, pareil, fils de musulman, qui découvre Springsteen, et puis qui a comme ça un crush avec sa musique, ses mots, ses paroles. C'est étonnant, en plus, c'est une histoire vraie. Écoutez, je suis pas mal reconnu dans ce personnage, même dans son rapport à l'amour, à ses parents, voilà, moi j'avais pas des parents aussi sévères que dans le film. Mais non, c'est bien vu, et c'est un joli film, vraiment.
Ouais, voir,
il est encore en salle. Et...
Absolument. Rochdy, on approche de la fin de l'émission. C'est l'heure pour moi d'aller chercher le dernier vinyle. Je vais appeler mon ascenseur, voilà, et vous allez venir avec moi, je vais vous présenter quelqu'un. Allez. On est un petit peu à l'étroit, hein. Très grand cet ascenseur, et encore, cette heure-ci il n'y a pas trop de monde. Bon, on va aller ici.
Ça va?
Oh, oh.
On est bien là.
Oui, oui, oui. On
est tranquille. Ah, Rochny, je vous présente pas.
Hello, this is Bruce Springsteen.
Oh my God! Ah, mais Rochny, mais il est tombé dans les pommes. Mais Rochny, mais il s'évanouit. Bah, ouais, attendez, je vais lui faire du bouche à bouche. Rochny, ça va? Rochny. Rochny, ça va? Rochny. Oh, Rochny. Mais Rochny, il revient lui. Rochny. Oh, mais il a les lèvres sucrées. Rochny ?
Oui, c'est bon, c'est bon. Pardon, j'ai eu une absence.
Oui, bon, le temps que vous remettiez de vos émotions, on va écouter Jonathan Richman and the Modern Lovers, Abdoul et Cléopâtre. Ça va ?
Abdul's not seen Cleopatra. It's been almost now a year. How I wonder where she's at, and I wish the old girl were here. Abdul yearns for Cleopatra in the early morning sun. Abdul loves Cleopatra. See, she's still the one. You know, I love Cleopatra. I'm just grateful that I know that old girl. Even though I wonder where she's at, as I wander through this world, and Abdul yearns for Cleopatra. Abdul takes her or takes none. Abdul loves Cleopatra. She's still the one.
All right, Leroy, tell them.
Cleopatra, take my patience and test it.
Test it.
Cleopatra, take your time as you may.
As you may.
My time has been well spent.
Well spent.
I dug cleaned up by Ted.
It's Ted.
You'll like it when you see it someday. Right. I will wait for Cleopatra, for I know my time must come. And I'm getting ready for wherever she'll be at, 'cause I'm getting stronger now and not so dumb. And Abdul yearns for Cleopatra in the early desert sun. I love Cleopatra, she's still the one. I love Cleopatra, she's still the one. Still the one.
Still the one.
I love Cleopatra. She's still the one.
Still the one.
Abdul loves Cleopatra. She's still the one. I love Cleopatra. She's still the one.
Jonathan Richman and the Modern Lovers, Abdul and Cleopatra, c'est dans Pop 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 sur France Inter. Voilà, c'est ici que s'achève cette émission. Merci infiniment, Rochny.
C'est moi qui vous remercie.
Vous êtes venu nous rendre visite. Les Sauvages, la série de Rebecca Zlotowski et Sabri Louata, s'est diffusée à partir de lundi sur Canal+. Merci à l'équipe de Pop Pop Pop, Ghislain Fontanus à la réalisation, à la technique, Florent Bugeaud, Aurélien Esvan, notre rédacteur en chef, Alexia Lacour, Simon Restat, nos attachés de production, la programmation musicale Djoubaka et Raphaël Harry, notre stagiaire. Demain, dans Pop Pop Pop, l'icône pop et l'auteur d'Amérique American Psycho, Bret Easton Ellis, avant la première nuit de la pop culture demain soir à 21h. Mais avant demain, si vous avez aimé l'émission, retrouvez-la sur franceinter.fr. Si vous êtes un Jones 3.0, un Yeuve ou une Yeuvesse à la pointe, suivez-nous. Ou plutôt, comme dit Roche Dizem dans ses tutos Springsteen sur YouTube. Ça va mieux, Rochdy? Abonnez-vous à notre podcast, c'est ça que ça veut dire. Et suivez-nous sur les internets, comme disent les milléniaux, 3615, pop sur Instagram et Twitter.